Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Aujourd'hui, c'est Andrea Atangana que je reçois. Oui, Andrea est une héroïne parce qu'elle a un parcours de vie plutôt particulier et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. On a annoncé à ses parents quand elle était bébé qu'elle était atteinte d'une maladie génétique et cette maladie a transformé sa vie. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de la recevoir au micro de Balance ton héroïne et qu'elle puisse nous partager son expérience de vie. Évidemment, cette interview se terminera par des notes très positives. On écoute Andrea. Andrea, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne.
Merci.
Alors Andrea, nous, on a préparé cette interview en amont et... En fait, j'ai envie que tu nous parles de ton enfance aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on a annoncé à tes parents, lorsque tu étais bébé, que tu étais atteinte d'une maladie génétique. Est-ce que tu peux nous parler de cette maladie?
Alors, cette maladie, elle s'appelle la drépanocytose. Donc, c'est une maladie du sang qui touche les globules rouges et qui peut donner des grosses douleurs, en fait. C'est vrai que je pleurais beaucoup, on ne comprenait pas pourquoi. Et au final, ils sont partis voir le médecin et se sont rendus compte que j'étais drépano. C'est une maladie avec laquelle on peut vivre, mais c'est vrai que c'est assez dérangeant. On a toujours des douleurs et il faut toujours être sous Doliprane. Donc j'ai vécu mon enfance entre les hôpitaux et les hôpitaux, finalement. J'ai pas eu une enfance facile, puisque cette maladie, elle m'empêchait d'aller dans le froid, donc au ski, en colonie de vacances, même en cours de récréation. C'était impossible pour moi de jouer, parce que trop d'efforts me causaient des crises.
Est-ce que tu as pu suivre un cycle scolaire normal ?
J'ai quand même pu suivre un cycle scolaire, puisque malgré tout, je voulais être considérée comme un enfant normal. Mais c'est vrai que la maladie m'empêchait quand même d'être cet enfant normal.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette maladie? Elle atteint les globules rouges dans quel sens?
Dans les globules rouges, on a une espèce de petite protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, elle sert à transporter l'oxygène. Et donc du coup, on a un défaut d'hémoglobine, ce qui fait que l'oxygène est mal conduit au niveau des vaisseaux sanguins. Et donc du coup, ça amène des crampes. Et c'est ce qu'on va appeler des CVO, donc des crises vaso-occlusives. C'est-à-dire que du coup, le vaisseau sanguin est bouché. Et donc du coup, ça amène des grosses crampes, des grosses crises. Et donc du coup, ça arrive à n'importe quel moment et ça repart à n'importe quel moment. C'est imprévisible. C'est vrai que pour les médecins à l'époque, parce que maintenant c'est un peu plus connu, ils comprenaient pas. Et souvent, j'allais à l'hôpital, mais peut-être 5 fois par mois. Et ils se demandaient si je faisais pas exprès, s'il y avait pas un problème dans ma famille. Et à un moment donné, ils ont même appelé l'assistante sociale parce qu'ils se demandaient est-ce qu'elle n'est pas maltraitée et c'est pour ça qu'elle veut absolument aller à l'hôpital, ce qu'ils comprenaient pas. Donc c'était assez compliqué quand même. Et heureusement que j'avais un docteur qui connaissait très très bien cette maladie parce qu'elle est partie l'étudier au Canada et en Afrique puisque c'est plutôt une maladie qu'on peut trouver en Afrique. C'est quand même grâce à elle qu'on a pu trouver des solutions par la suite.
Alors, c'est quoi la solution que vous avez trouvée, notamment lorsque tu as eu 10 ans?
Alors, à partir de mes 10 ans, les crises s'intensifient. Suite à un examen médical, puisqu'avec cette maladie, tous les 6 mois, j'avais un bilan. À ce fameux bilan, on se rend compte que je commence à avoir des espèces de d'ischémie cérébrale. Donc, c'est on peut dire que c'est avant l'AVC. Donc là, on se dit, il faut qu'on traite la maladie, sinon la maladie va l'emporter, en fait. La solution miracle, c'est la greffe de moelle osseuse. Sauf que la greffe de moelle osseuse, on peut pas, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que rentre en jeu le chipage, en fait. On prend ma famille, on prend mes frères. J'ai 4 sœurs et 2 frères, mais c'est tous des demi-frères et des demi-sœurs, sauf un. Donc, du coup, ça s'annonce très compliqué. On les type, donc c'est ça, on fait un examen, en fait. C'est juste une prise de sang pour voir la compatibilité, en fait, des gènes. Voilà. Faut savoir que c'est quand même compliqué, c'est 1 chance sur 4. Et sachant que j'ai que des demi-frères et des demi-sœurs, c'est quasi impossible. Il me reste un seul frère. Et comme par hasard, il est compatible à 100%. Donc c'est quand même
merci.
Une chance terrible.
Il s'appelle comment ?
Landry.
Landry, merci.
Donc ouais, à cette époque, Landry a 13 ans, moi j'ai 10 ans, et voilà, on y va.
Et là, vous rentrez dans un cycle ?
Dans un cycle, il est mineur, donc il passe quand même avec le juge, pour savoir s'il est totalement d'accord pour cette opération, qui est quand même compliquée pour un enfant. Et donc, il accepte, ou mes parents lui acceptaient, je ne sais pas. Mais il accepte, et voilà, on y va, et on arrive dans le processus.
Ce que je te propose, c'est quel a été le processus pour Landry ?
Le processus pour Landry, c'est donc du coup, il va chez le juge, il accepte. Et donc du coup, lui, ça va être un peu plus simple. Finalement, ça va être une opération anesthésie générale. Mais voilà, on lui ponctionne au niveau du bas du dos, un peu de moelle osseuse. Ça dure quelques heures. Et il rentrera à la maison 24 heures après.
D'accord. Ok, donc c'est plutôt light pour lui, avec une ponction de liquide, en fait,
c'est
dans la moelle osseuse. Quel a été le process pour toi ?
Oui.
Et je pense que ça a été plus long.
Ça a été un peu plus long. Donc, avant de recevoir la moelle osseuse de Landry, moi, il fallait que tout finalement la mienne soit éliminée. Donc, pour éliminer la moelle osseuse, on est parti sur de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc, c'est quelque chose qui va durer entre 4-5 jours. Donc, chimiothérapie, tout ce qui s'ensuit avec les effets secondaires, vomissements, perte de cheveux. Donc, c'est quand même assez compliqué pour un enfant de 10 ans. Mais moi, je sais pourquoi je fais ça. Donc, j'y vais et je me pose pas de questions. Ma mère, elle est là avec moi. Et ensuite, après la chimiothérapie, la radiothérapie, on me met dans une chambre. Donc, à l'époque, on appelait des chambres à bulles. Donc, pour venir me voir, il faut s'habiller en cosmonaute. Et ça dure 6 semaines. 6 semaines, je reste dans cette chambre pendant 6 semaines. Avec les effets secondaires et les médicaments, je perds la vue pendant une semaine. Mais je sais que ça reviendra.
C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, tu es consciente que ce que tu vis, c'est pour ta renaissance.
C'est ça. C'est ça. De toute façon, je me dis que il peut pas arriver. Enfin, je peux pas avoir pire que ce que j'ai vécu en fait avec la drépano. Donc c'est la solution miracle. À l'époque, c'est la solution miracle. Pour moi, on me la vend comme ça et je suis encore. Même si je suis consciente de tout ce qui se passe, je reste quand même un enfant. Donc moi, j'écoute ma mère. Si maman elle me dit que c'est la solution miracle, alors c'est la solution miracle. Et au final, c'était la solution miracle. Donc 6 semaines après, je sors de cet hôpital et je vais dans un centre de rééducation pendant 3 mois pour réapprendre quand même à vivre. Parce que je suis quand même restée 6 semaines au lit, je ne peux pas bouger, donc voilà.
Donc durant ces 6 semaines, il y a eu l'injection.
Oui.
Tu as subi l'opération et au bout de combien de temps tu as senti que tu étais en train de revivre et que ton corps reprenait toute son essence ?
Alors, je rentre à l'hôpital le 30 novembre. On me fait la greffe de moelle osseuse le 11 décembre, donc 15 jours après. Donc du coup, à partir de là, je rentre en aplasie. Donc l'aplasie, c'est je n'ai plus de globules rouges, je n'ai plus de globules blancs. Je suis vraiment susceptible de recevoir toutes les infections possibles et inimaginables, d'où la chambre à bulles. Et je remonte mes globules blancs, donc le fait de remonter les globules blancs, c'est que finalement, ça commence à fonctionner le 23 janvier, voilà. Et donc, du coup, je m'apprête à sortir de cette chambre le 25 janvier, et c'est le 25 janvier que je tombe aveugle, en fait. Je me rappelle de toutes les dates. On n'avait absolument pas prévu ça. Et mais bon, une semaine après, je retrouve la vue. Donc, le 31 janvier, je peux quitter l'hôpital pour retourner dans un centre. Et je resterai dans ce centre jusqu'au 27 avril. Voilà. Et donc, du coup, tout va bien, finalement.
C'est quoi le souvenir que tu as de ce centre de rééducation où tu es en train de revivre, en fait, tu retrouves tout ton corps, tu retrouves la vie, tu sens que tu n'as plus de crampes, alors, à ce moment-là ?
Non. Bah, moi, c'est vrai qu'après la greffe, je n'ai plus de douleur, en fait. C'était vraiment une renaissance. Ce qui était vraiment cool avec ce centre, c'est que c'était un centre d'ados. C'était que des adolescents. Donc finalement, je retrouve une vie sociale. Je retrouve une copine avec moi dans la chambre. Donc, et je retrouve l'école. Enfin, voilà, c'est une vraie vie, mais à l'hôpital. Et il y a des activités, je peux ressortir dehors, je peux retrouver mes copines aussi de l'extérieur qui peuvent venir me revoir. Enfin, c'est une nouvelle vie qui commence.
Super. Et c'est comment le retour à la maison alors ?
Avec le centre, on fait quand même des petites permissions. Je fais des petites permissions de week-end. Au départ, c'est compliqué parce que ça fait quand même depuis le mois de novembre que je suis à l'hôpital. Donc... C'est compliqué et pour moi et pour mes sœurs parce qu'elles ont peur. Elles ont peur et moi j'ai aussi peur du regard des gens parce que j'ai plus de cheveux à cette époque. Hein. J'ai 10 ans mais j'ai plus de cheveux donc ça, c'est quand même traumatisant. Donc j'ai un peu peur quand même du dehors. Je me sens un peu plus en sécurité au centre. Au final, je sors du centre fin avril et heureusement que ma sœur est là. C'est elle qui s'occupe de moi. Parce que...
Ta sœur Christelle ?
Oui, c'est ça. Parce que c'est dingue, mais à mes 10 ans, quand je sors du centre, ma mère vient avec moi. Et là, je lui dis, c'est bon maman, je suis guérie. Tu peux reprendre ta vie. Donc, va au Cameroun et reprends ta vie de femme. Donc, à 10 ans, je dis à ma mère, reprends ta vie de femme. Moi, je gère. C'est bon, je suis plus malade. Donc, elle décide de partir au Cameroun et de respirer un peu quand même. Donc, c'est ma grande sœur qui prend le relais, qui s'occupe de moi et elle l'a fait parfaitement, en fait. Donc, je la remercie pour ça.
Comment se passe la relation avec ton frère du fait quand tu rentres à la maison, ton frère Landry ?
Bah, mon frère Landry, ça a toujours été une relation très passionnelle. Et là encore plus, puisque finalement, je sais que c'est lui qui m'a sauvé la vie et que sans lui, je ne serais pas là à parler avec toi. Donc, j'ai un énorme respect pour lui et encore plus maintenant, en fait. Donc...
Là, aujourd'hui, Andrea, tu as 30 ans. Est-ce que tu as retrouvé une vie normale ?
20 ans après la greffe, j'essaye de retrouver une vie normale et je pense que j'ai retrouvé une vie normale puisque je n'ai plus jamais eu de douleur. Je n'ai plus jamais eu de douleur. Je voyage, je vais au ski alors que c'était interdit. Je vais au soleil alors que c'était interdit. Donc vraiment,
yes,
je croque la vie à pleines dents. Maintenant, c'est vrai que... À 10 ans, quand j'ai fait ma chimio et la radiothérapie, on m'a fait une ovarectomie. Donc, on m'a enlevé mon ovaire pour pouvoir conserver et pour pouvoir plus tard avoir une vie et avoir des enfants. Donc, c'est vrai que j'ai encore ce problème. Actuellement, je peux pas avoir d'enfant. Le jour où j'aimerais avoir un enfant, il faudrait que je retourne à l'hôpital pour me refaire... remettre mon ovaire. Donc c'est un peu le petit bémol. Mais je me dis, si j'ai réussi à vaincre cette maladie, il n'y aura peut-être pas de soucis pour l'enfant après.
Donc là tu te dis tout est possible.
Tout est possible.
Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on t'a proposé une autogreffe d'ovaire.
C'est ça. Du coup à mes 10 ans, on me fait une ovarectomie, on enlève un ovaire. Et à mes 13 ans, on me propose pour avoir une puberté, donc pour avoir rien que des seins, pour avoir des seins comme une fille normale ou même un cycle menstruel, on me propose quelque chose qui n'a jamais été fait, donc une autogreffe d'ovaire. Donc on récupère 3 fragments de mon ovaire et on me les remet. Donc ça s'appelle une autogreffe d'ovaire finalement. En 2007, je suis la première au monde à le faire. Et ça se passe en janvier. Et 8 mois après, automatiquement, j'ai un cycle menstruel. Et donc, du coup, ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai toujours mes règles, sans avoir eu besoin d'avoir des hormones ou des médicaments. Donc, c'est aussi un miracle, finalement. On se dit, comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Parce que... On s'était dit, au bout de 10 ans, ces petits fragments, ils allaient s'estomper, ils allaient s'arrêter. Enfin, c'est trop petit pour pouvoir vraiment continuer à avoir un cycle. Et donc, du coup, le miracle continue et j'en suis encore très, très, très fière. Et qui sait, peut-être que je pourrais avoir des enfants, finalement, même sans ovaire. Donc, mais bon, pour l'instant, non.
Est-ce que tu comprends... Pourquoi Christelle est venue vers moi et m'a dit « Tu sais, il faut que je te présente ma sœur Andrea, ma petite sœur, parce que c'est vraiment une héroïne. »
Oui et non. Je pense que c'est quand même un sacré parcours. Sachant que maintenant, aujourd'hui, moi, je suis infirmière. Je travaille dans un service d'hématologie où je vois beaucoup de greffes de moelle osseuse. Donc moi, à mes 10 ans, je me disais que c'était vraiment la solution miracle. Et aujourd'hui, je me dis, oh, c'est quand même un gros bénéfice-risque. Et c'est maintenant que je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance et à quel point, j'ai été un peu une héroïne parce que toutes les histoires ne se passent pas aussi bien que la mienne. Donc oui, je peux comprendre quand même.
En tout cas, Andrea, je suis ravie de t'avoir reçue au micro de Balance ton héroïne.
Merci.
Tu m'as quand même dit, avant qu'on termine l'interview, que pour toi, les héros et les héroïnes que tu voyais tous les jours à l'hôpital, qui étaient prêts à recevoir une greffe, qui étaient prêts aussi à se battre, parce que comme tu le dis, c'est pas simple de recevoir une greffe,
non.
Et puis ça marche pas tout le temps. C'est quoi les statistiques? C'est une sur 10? C'est une sur 100? C'est...
Alors, j'ai pas vraiment les statistiques. Maintenant, je sais qu'avec la médecine, il y a quand même beaucoup de progrès. Avant, comme je t'expliquais, c'était vraiment des greffes où il fallait être compatible à 100%. Maintenant, c'est vrai qu'on peut faire des greffes avec les parents, donc ça va être des greffes à 5 sur 10, donc à moitié. Mais on essaye quand même, on fait des chimios. Mais c'est vrai qu'au niveau des effets secondaires, on peut en avoir beaucoup plus. Parce que moins c'est compatible et plus il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, ça peut être catastrophique, voire la mort. Enfin, et ça, on ne le dit pas assez. Mais il y a aussi un bénéfice de réussite et ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte. Et puis, je suis la preuve que la greffe, ça fonctionne. Puisqu'à 20 ans de greffe, je n'ai toujours pas de douleur, je n'ai plus de douleur. Finalement, dans ma vie, ça va très très bien.
Et c'est cette lueur d'espoir que tu apportes à tous les patients, puisque tu travailles aujourd'hui dans le service, auprès du médecin qui t'a sauvé la vie.
Exactement, je me suis toujours dit, quand j'étais plus jeune, j'aimerais sauver moi aussi. Et du coup, j'ai tout fait pour retravailler dans le service où moi j'ai été greffée. Et je travaille maintenant en collaboration avec le médecin qui me suit, finalement. Donc c'est vraiment une belle histoire. C'est vrai que j'ai quand même cette double casquette d'avoir été patiente et maintenant d'être soignante. Donc je sais ce qu'ils vivent et je le dis pas à tous mes patients que j'ai été malade, mais c'est vrai que quand je les vois vraiment au bord du gouffre, je leur dis que voilà, c'est le bout du tunnel et qu'après ça va être tellement génial. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, mais qu'est-ce t'en sais, toi, tu ne sais pas ce que je vis. Et là, des fois, je peux leur dire, si, je sais ce que tu vis parce que je l'ai vécu. Et si tu me vois aujourd'hui, ça veut dire que tu peux être aussi pareil que moi après. Donc, faut se battre, c'est dur, c'est vraiment un long moment à passer, mais tu sais pas ce qui va t'attendre après. C'est tellement magique. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de leur donner vraiment toute cette lueur d'espoir. Et je pense que...
En ça aussi, tu es une héroïne.
Ouais.
Pour eux.
Oui, mais c'est eux finalement les héros. Je pourrais te dire, il y a 3 ans, j'aurais pu te dire, c'est mon frère le héros, puisque c'est lui qui m'a sauvé la vie. Mais aujourd'hui, je sais que c'est eux les héros, parce que c'est eux qui se battent encore, et ils sont géniaux en vrai. Ils sont géniaux parce que c'est dur. Ils sont géniaux parce que moi, maintenant, je travaille avec des adolescents. Moi, j'avais 10 ans. Mais finalement, adolescents à 15 ans, 20 ans, 25 ans... Se battre contre une maladie comme ça, c'est tellement compliqué. Parce qu'il y a tes amis dehors qui sont en train de construire leur vie, qui sont en train de s'amuser, de sortir. Et toi, tu te bats contre une maladie que tu n'as pas forcément voulu. Et c'est beau, en vrai. C'est très, très beau. Et je donnerai ma vie, je pense, pour continuer à les aider et être avec eux, quoi.
Bah, continue, en tout cas. Je te souhaite de continuer le plus longtemps possible ce que tu es en train de faire auprès d'eux. Merci beaucoup, Andrea.
Merci
à toi.
Et
je te souhaite plein de bonnes choses et je te souhaite un jour d'être mère et de pouvoir avoir un enfant, en tout cas.
Merci.
On croise les doigts.
Oui.
Merci, Christelle. Merci, Andrea.
Merci.
À bientôt.